Bonjour à toutes et à tous. Avant d'en venir au message, je voudrais juste faire rebondir un peu sur ce que Luc a dit dans le soi des chants. Je ne sais pas si vous avez remarqué comme moi ce matin, mais on est resté dans J'aime 1. Alors, moi je suis très content, parce que je retrouve les grands classiques de ma jeunesse. Il y avait 1 à toi la gloire, donc on remonte encore un peu dans le passé. Juste une remarque pour montrer que ça montre, à mon avis, quand même une évolution dans les chants d'aujourd'hui. C'est que quand on veut chercher des chants où on ne parle pas de nous, mais exclusivement de Dieu, et bien il faut remonter un peu plus loin dans le temps. Et donc, ce n'est pas une critique sur les chants qui sortent aujourd'hui, parce qu'il y a des chants qui sont récents et que je chante avec beaucoup de plaisir. C'est simplement pour montrer qu'on est peut-être dans une époque où on a tendance à regarder à soi et qu'on a peut-être besoin de réentendre que c'est quand même Dieu qui prime tout. Voilà, je referme la parenthèse et donc on va en revenir à nos prédications sur l'évangile de Marc. Et le texte qui retiendra notre attention ce matin nous relate deux guérisons. Alors ce texte, je le lirai en plusieurs fois. Jésus accède à deux demandes qui émanent de personnes malades depuis longtemps. Alors je me suis posé deux questions pour essayer de cadrer un peu ce message. D'abord, en quoi est-ce que ce texte nous concerne encore aujourd'hui ? On ne croise plus beaucoup de lépreux. Alors, est-ce que c'est encore un texte d'actualité? Et puis, deuxième question, qu'est-ce que ça nous apprend sur la personne de Jésus et sur son ministère? Alors, avant de lire le texte de ce matin, je ferai un bref rappel à travers cette diapositive. Alors, voilà. Après les premiers versets d'introduction de l'évangile de Marc, on a assisté au baptême de Jésus par Jean-Baptiste. Puis Jésus a été tenté dans le désert pendant 40 jours. Il est remonté en Galilée, il a choisi ses premiers apôtres. Puis il s'est dirigé vers Capernaum, où il est entré dans la synagogue pour enseigner. Et nous prenons le texte à ce moment-là, où il sort de la synagogue. Sortant de la synagogue, Jésus se rendit avec Jacques et Jean à la maison de Simon et d'André. La belle-mère de Simon était couchée avec une forte fièvre. Dès l'arrivée de Jésus, ils lui parlèrent d'elle. Il s'approcha, lui prit la main, la fit lever. La fièvre la quitta et elle se mit à les servir. Colin nous avait prévenu, hein, Marc est très concis dans sa façon de rapporter les choses. Et ici, effectivement, il y a un épisode qui nous est relaté presque de façon journalistique, j'allais dire, les faits, rien que les faits, pas de commentaires. Alors les faits, quels sont-elles? La belle-mère de Pierre était atteinte d'une forte fièvre, donc c'est quand même un cas sérieux. Et Jacques et Jean en parlent à Jésus dès leur arrivée. Ils montrent par là qu'ils sont attentifs à l'état de santé de leur belle-mère, et qu'ils sont probablement inquiets devant cette forte fièvre. Ils en parlent aussitôt, c'est donc que la guérison de leur belle-mère est pour eux une priorité. Une priorité, c'est ce à quoi on attache le plus d'importance. C'est une banalité de le dire, mais ce qu'ils font en premier, c'est de demander à Jésus d'intervenir en faveur de leur belle-mère. Et on peut se dire que s'ils le font, c'est qu'ils s'attendent à ce que Jésus la guérisse, comme il vient de délivrer un homme dans la synagogue d'un mauvais esprit. Je me dis qu'on peut déjà tirer deux enseignements de ce court passage. La famille, c'est quand même le lieu où on veille sur nos proches. Et on peut remercier le Seigneur. Je repensais à ce verset qui dit que Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, et bien le cadre pour nous de vivre, c'est le cadre familial, bien souvent. Et cette famille, c'est le cadre où on prend soin les uns des autres, de notre santé physique, psychologique, mais aussi spirituelle. Et puis deuxième responsabilité, et bien recommander nos proches à la personne la plus qualifiée pour prendre soin d'eux, à savoir Dieu. Alors bien sûr, nous ne sommes pas invités à prier que pour nos proches, mais nous sommes invités à ne pas les oublier, à veiller sur eux. Et il y a 15 jours, à ce micro, Jérémy Kouyoumdjan nous rappelait l'importance de la prière et nous incitait à persévérer dans ce domaine. Voyons comment Jésus a réagi en reprenant les différentes parties du verset 31. Il s'approcha. Jésus veut être proche de nous. Mais bien souvent, c'est nous qui n'y faisons pas attention et qui nous détournons de lui. Il lui prit la main. C'est un geste tout simple, mais qui est un signe de proximité, d'affection, de compassion. C'est lui proposer son aide. C'est aussi parfois un signe de réconciliation, tendre la main. Par ce geste tout simple, Jésus montre qu'il est sensible à la douleur de cette femme. Jésus la fit lever, la fièvre la quitta. Jésus montre ici sa toute puissance sur la maladie. Et la simplicité du récit donne encore plus de force, je trouve, au message que Marc veut transmettre. Tu disais, Luc, on appuie sur le bouton et la lumière s'allume. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Cette simplicité, c'est toute la puissance, la force de Dieu en quelques mots. Un simple geste suffit à Jésus pour chasser la fièvre. Et la fin du verset nous dit « Et elle se mit à les servir ». Comment cette femme montre-t-elle à Jésus sa reconnaissance ? En servant. Comment est-ce que nous pouvons montrer à Dieu notre reconnaissance ? En servant. Reprenons notre lecture au verset 32. Le soir, après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et tous ceux qui étaient sous l'emprise de démons. La ville entière se pressait devant la porte de la maison. Il guérit beaucoup de personnes atteintes de diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons et leur défendit de parler car ils savaient qui il était. Vous avez noté tous les malades, tous ceux, la ville entière. Vous imaginez cette scène ? Je veux dire, le monde qu'il devait y avoir devant cette maison. Ça traduit une soif, une attente, une espérance. Alors pourquoi ont-ils attendu le soir ? Et ça, on en a eu une explication, ne serait-ce que dimanche dernier. Bon, c'est le jour du sabbat. Et le jour du sabbat, on n'a pas le droit de voyager, de se déplacer. Donc ils attendent le coucher du soleil pour bouger et amener les malades. Et ce qui est frappant, c'est que Jésus accepte de guérir tous ceux qu'on lui présente. Là encore, c'est un signe de sa compassion pour tous ceux qui souffrent. Et le grand nombre de ces guérisons, c'est vraiment le signe qu'il n'y a aucune maladie que Dieu, Jésus en l'occurrence, ne puisse guérir. Je ne sais pas si, comme moi, vous avez été surpris à la fin de notre lecture. Comment se fait-il que les démons savent qui il est alors que les hommes l'ignorent encore ? Et pourquoi Jésus interdit-il aux démons de dire qui il est vraiment ? Après tout, la publicité aujourd'hui, c'est important, on essaye de se faire connaître et tout. Jésus, lui, c'est tout le contraire. On a l'impression, il dit surtout, ne dis rien. J'y reviendrai plus tard. Reprenons notre lecture. Le lendemain, bien avant l'aube, en pleine nuit, il se leva et sortit. Il alla dans un lieu désert pour y prier. Simon et ses compagnons partirent à sa recherche. Quand ils l'eurent trouvé, ils lui dirent « Tout le monde te cherche !»« Allons ailleurs, leur répondit-il, dans les villages voisins. Il faut que j'y apporte aussi mon message, car c'est pour cela que je suis venu. » Et il partit à travers toute la Galilée. Il prêchait dans les synagogues des Juifs, et chasser les démons. Jésus s'isole pour être en communion avec son Père. Il éprouve le besoin de se tenir loin de la foule, du tumulte. Et ses disciples semblent lui reprocher. Mais tout le monde te cherche. Quand on dit ça à ses enfants, en général, on n'est pas trop content d'avoir dû les chercher, quoi. On pourrait comprendre, mais écoute, tu nous fais perdre notre temps. Ou encore, tu fais bande à part, tu nous as abandonnés. Jésus montre simplement que ce temps de prière, lui, il en a besoin Et qui sommes-nous pour croire que nous pouvons nous en dispenser? Jésus éprouve le besoin de se préparer. Nous avons aussi besoin de nous préparer lorsqu'on prêche le dimanche matin, ça c'est une évidence. Mais lorsqu'on va affronter une journée dont on ne sait pas du tout ce qu'elle nous réserve. Demandons à Dieu de nous préparer à cette journée. Et comme Jésus, cherchons premièrement la communion avec le Père avant d'être accaparés par toutes nos activités. Nous sommes aussi invités à bien définir nos priorités et à ne pas prier seulement dans l'urgence. Nous l'avons vu dans une étude qu'on a faite sur 1 Samuel, où nous avons vu que le prêtre Abiathar avait pris soin d'emporter l'éphod pour que David puisse consulter l'Éternel lors de sa fuite. Et on avait fait ce commentaire en disant, il s'est montré prévoyant. Quand ils ont eu besoin de consulter l'Éternel, ils avaient l'éphod pour pouvoir le faire. Eh bien, j'ai une bonne nouvelle pour vous, vous n'avez pas besoin d'emmener l'éphod quand vous partez au travail ou quoi que ce soit. Il vous suffit de vous tourner vers Dieu par la prière pour pouvoir le consulter. Et puis, je ferai une remarque aussi, ce n'est pas la seule fois où ça se produit dans les Écritures. Les disciples disent quelque chose et on a l'impression que Jésus répond à côté. On cherchait partout et il leur répond « Allons ailleurs ». Il ne répond pas à leur récrimination, mais il leur explique quelle est sa mission. Peu lui importe les reproches de disciples, sa première préoccupation est tout autre. Il faut que j'y apporte aussi mon message, sous-entendu dans tous les villages voisins. C'est pour cela que je suis venu. Et là, Jésus nous précise pourquoi il s'est incarné, pourquoi il est venu sur terre. Il est venu apporter un message, premièrement à son peuple d'Israël, et ce n'est pas lui qui le donnera aux autres nations, ça se fera par l'intermédiaire des disciples. Lui est venu pour donner la bonne parole, la bonne nouvelle au peuple d'Israël. Et j'aurais pu en citer bien d'autres, j'ai retenu 3 versets où il précise pourquoi il est venu. Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Nous qui sommes habitués à lire la parole de Dieu, ce verset nous parle, ça nous fait du bien. Mais il y a peut-être parmi nous des gens qui ne connaissent pas bien les Écritures, et je me rappelle d'une réflexion que je m'étais faite bien avant ma conversion. J'aurais été tout à fait capable de répondre à ce verset, « La vie, mais je suis vivant. Qu'est-ce que c'est que cette parole-là » Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Mais là aussi, je ne suis pas dans les ténèbres. Ce n'est pas du tout une parole évidente. Je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Sauver ? Mais j'ai rien demandé, moi. Je n'ai pas demandé à être sauvé. C'est une question qu'on pourrait se poser après tout. Le monde a-t-il réellement besoin d'être sauvé? Je pense que beaucoup ici vous êtes convaincus, mais les autres. Alors pour ceux qui ne sont pas familiers de ce vocabulaire, quand on parle de sauver, je ne parle pas de l'urgence climatique ou des bruits de guerre. Hein. Je parle d'un problème beaucoup plus ancien que la Bible appelle le péché. Et pour ceux qui ne connaîtraient pas bien les Écritures, eh bien je ferai quelques mentions de versets qui sont fondamentaux dans notre foi. Éphésiens 2:1 qui dit « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. » Si quelqu'un, vous croisiez quelqu'un qui vous dit « Vous êtes mort, enfin, t'es dans un état de mort imminente. » Je crois que vous lui demanderiez « Pourquoi quand même ?» Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le péché, mais qu'est-ce que c'est que le péché? Et le salaire du péché, c'est la mort. Oui, l'Écriture dit bien que nous sommes morts. Et Jésus est venu annoncer la bonne nouvelle Dieu offre à toute personne la possibilité d'être pardonné de ses fautes. Romains 6, 23, le don gratuit de Dieu, c'est la vérité éternelle, c'est la vie éternelle, pardon, en Jésus-Christ notre Seigneur. Alors le péché, si vous n'êtes pas habitué à ce terme, c'est tout simplement la désobéissance à Dieu. Alors il y a la possibilité d'être sauvé, mais que faut-il faire pour être pardonné? Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Je voudrais simplement dire que ce verset, bien sûr, s'adresse aux non-convertis, mais c'est un bon rappel pour les convertis aussi. Si vous vous posez des questions pour savoir si votre salut à certains moments n'est pas un peu mis en danger par des choses que vous avez faites ou pensées, la condition pour être sauvé, elle est toute simple. Confesser de sa bouche le Seigneur Jésus, croire de son cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. Pardon, là, je me trompe. Alors vous m'excuserez, c'est peut-être des formations de professeur, mais confesser, qu'est-ce que ça signifie? Ça peut être ça. Moi, je pense, premier sens qui me vient, c'est reconnaître pour vrai. Je reconnais que la parole est vraie. Et après, il y a la suite logique, c'est la proclamation. Confesser Jésus, pour moi, c'est reconnaître ses paroles comme étant la vérité. Or, au verset 15 du premier chapitre de Marc, Jésus dit « Le temps est accompli, le royaume des dieux est proche, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Voilà pourquoi Jésus est venu. Se repentir signifie regretter vivement d'avoir fait ou dit quelque chose, mais ça ne s'arrête pas là, avec le désir de ne plus la commettre et de réparer. C'est ce qu'on appelle aussi la repentance dans notre jargon. Et pourquoi Dieu offre-t-il son pardon? Eh bien, ça a été dit ce matin pendant la présidence, c'est l'un des qualificatifs de Dieu, parce que Dieu est amour. Et que Dieu est compatissant, qu'il n'est pas insensible à la souffrance des créatures. Et ce n'est pas nouveau, déjà dans le livre de l'Exode, Dieu dit « J'ai vu la souffrance de mon peuple ». Dans le livre des psaumes, le psalmiste qui dit « Tu vois la peine et la souffrance ». Et parmi d'autres, j'ai retenu ce verset où on voit Jésus qui est sur un mont et qui regarde la ville de Jérusalem et qui lui dit « Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes, qui lapides ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes ? Et vous ne l'avez pas voulu. » Je ne sais pas, mais cette image de la poule qui rassemble ses poussins pour en prendre soin, pour les protéger, pour les réchauffer, Jésus voulait prendre soin de son peuple. Et il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc c'est encore sa volonté pour nous aujourd'hui. C'est ce que nous allons pouvoir constater à nouveau en lisant la fin du chapitre. Un lépreux s'approcha de lui. Il le supplia, tomba à genoux devant lui et lui dit « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus prit de pitié pour lui, tendit la main, le toucha et lui dit « Oui, je le veux. Sois pur. » À l'instant même, la lèpre le quitta et il fut pur. Jésus le renvoya aussitôt, après lui avoir fait de sévères recommandations. « Attention, ne dis rien à personne de ce qui t'est arrivé, mais va te faire examiner par le prêtre et apporte l'offrande prescrite par Moïse pour ta purification. Cela leur prouvera qui je suis. » Mais lui, à peine sorti, se mit à proclamer à tout le monde ce qui lui était arrivé, et il répandit la nouvelle partout. À cause de cela, Jésus ne pouvait plus aller ouvertement dans une localité. Il se tenait en dehors, dans des lieux déserts. Et cependant, on venait à lui de toutes parts. Cette deuxième guérison concerne ici un lépreux. Dans la Bible, la lèpre représente très souvent le péché. Et comme je l'ai déjà rappelé, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Voilà pourquoi ce texte ne concerne pas que des personnes malades dans leur corps, mais elle nous concerne tous, car nous sommes tous atteints de cette maladie spirituelle, le péché, la désobéissance à Dieu. Une des conséquences de la lèpre, c'est qu'elle condamnait le malade à vivre à l'isolement, à l'écart de la ville, privé de toute relation sociale. Le péché, lui, nous prive de la communion avec Dieu. Revoyons cette guérison en détail. Le lépreux s'approche de Jésus. Il brave les interdits. Un lépreux, ça ne doit pas s'approcher des gens saints. Et comment s'approche-t-il ? À genoux, avec humilité et avec foi. Si tu le veux, tu peux me rendre pur. Si tu le veux, ça montre sa soumission à la volonté de Jésus. Le « tu peux » montre sa foi et il confesse aussi son impureté. Et vous voyez au verset 41, « Jésus prit de pitié pour lui, lui tendit la main et le toucha. » Non seulement Jésus s'est laissé approcher, mais il est allé vers lui pour lui tendre la main et le toucher. Le même geste que pour la belle-mère de Simon. Ce contact physique, cette proximité, témoigne de la compassion et de cette recherche de Jésus d'être près de nous. Et il lui dit à ce lépreux, « Oui, je le veux, sois pur. » La volonté de Dieu, ce n'est pas que nous soyons malades, ce n'est pas de nous punir. Dieu veut que nous soyons purs. Ça me rappelle cette parole du livre de Lévitique, « Vous serez saints car je suis saint. » Dieu nous a créés à son image. Et si la chute nous a rendus impurs, la volonté de Dieu, c'est de nous restaurer et de nous rendre purs à nouveau lorsque nous confessons nos péchés. Paul adressera cette exhortation à Timothée dans la première épître au chapitre 5. « Conserve-toi pur. » Je suis convaincu que ce matin encore, Jésus nous dit « Oui, je le veux, sois pur. » Et Paul continuait dans ses exhortations à Timothée, où il disait « Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses, recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur, combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. » Les choses que Paul recommande de fuir sont notamment l'amour de l'argent, les passions, tout ce qui suscite l'envie et non le contentement. Et pourquoi il conseille à Timothée de fuir ces choses ? Pour rester pur. Et je pense que je ne vous apprends rien si je vous dis qu'on est dans un monde où on doit fuir certaines choses. Il y a des choses qui sont tellement puissantes que la sagesse, c'est de les fuir et pas forcément de les affronter. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut fuir devant tout, qu'il n'y a pas de combat à mener. Mais en tout cas, il y a des choses devant lesquelles il est plus sage de fuir. Et j'en reviens à cette question, pourquoi Jésus demande-t-il aux lépreux de n'en parler à personne de cette guérison ? Il lui demande simplement de se conformer à la loi juive. Aller se présenter au prêtre, pour qu'il puisse constater qu'il y a bien eu une guérison. Et la logique, c'est que les Israélites croient que seul Dieu a le pouvoir de guérison. Donc si Jésus a guéri ce lépreux, Jésus est Dieu. Et c'est comme ça qu'il veut se révéler aux prêtres. Et puis, la loi juive demande aussi de donner une offrande en signe de reconnaissance. Jésus avait déclaré à un moment, « Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir ce qui est écrit dans la loi et les prophètes. » Et bien ici, il dit, « Ô lépreux qui est guéri, fait ce que la loi préconise. Et concernant l'offrande qui est un signe de reconnaissance, cela m'a fait penser à un autre épisode de guérison qu'on trouve dans l'évangile de Luc, où Jésus va guérir 10 lépreux. Je lis rapidement le texte. Comme Jésus entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent « Jésus, maître, aie pitié de nous !» Dès qu'il les eut vus, il leur dit « Allez vous montrer au sacrificateur !» Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit « Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu ?» Puis il lui dit « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Les 10 lépreux ont obéi à l'injonction de Jésus. Ils vont se présenter au prêtre et cela leur vaut d'être guéris de leur lèpre. Mais seul le Samaritain vient dire sa reconnaissance à Jésus. Lui sera guéri non seulement de sa lèpre, mais aussi de la mort éternelle qui résulte de son péché. C'est ainsi que je comprends, ta foi t'a sauvé. Sa reconnaissance lui a valu une récompense bien plus grande que sa seule obéissance. Sur l'importance de l'obéissance, je crois que si vous avez des enfants, vous leur avez tous appris à dire merci. Et quand on est grand, normalement on n'oublie pas ce qu'on a appris en étant enfant et on continue à dire merci. Mais il y a des choses qui paraissent tellement naturelles. Appuyer sur un interrupteur, tu disais, Luc. Je ne dis pas merci à chaque fois que j'allume la lumière, ça je pense que vous êtes comme moi, et ce n'est pas ça qui est attendu, mais on oublie peut-être trop souvent de dire merci et d'être reconnaissant pour le don de la vie éternelle. Alors ce verset 45 là, nous donne une première explication. Pourquoi Jésus demande-t-il aux lépreux de ne rien dire? Eh bien on voit qu'une des conséquences, c'est que la foule arrive si nombreuse que Jésus ne peut plus faire ce qu'il est venu faire. Et il nous a dit que sa renommée s'étant répandue dans toutes les villes, eh bien, dès qu'il entrait dans une ville, c'était la même chose, et donc il était obligé de rester à l'extérieur des villes. Que venait chercher cette foule? Eh bien, elle apportait les malades afin que Jésus les guérisse. Alors vous allez me dire, mais il n'y a rien de mal à ça. Bien sûr. Mais le risque, c'était que Jésus ne soit perçu que comme un faiseur de miracles. Et que les gens ne viennent le voir que pour se faire guérir. Alors bien sûr, Jésus a fait des guérisons, et on a dit notamment pour attester de sa divinité, mais son ministère ne se limitait pas à cela. Il est venu apporter la bonne nouvelle. Rappelez-vous tous les « je suis venu, je suis venu ». Et il ne voulait pas que son ministère de guérison prenne le pas sur son ministère d'enseignement. Et je me dis que pour nous aussi, le risque existe de penser à Dieu quand on a quelque chose à lui demander dans la prière et parfois de ne pas mettre suffisamment l'accent sur sa parole, sur l'enseignement, sur ce qu'il veut nous dire. Dieu n'est pas seulement un distributeur de bénédictions. Dieu est quelqu'un qui a une volonté pour nous. Et nous sommes appelés aussi à rechercher cette volonté. J'en arrive à la conclusion. Que retiendrons-nous de ce texte ce matin? J'essaye, je vous l'ai peut-être déjà dit à ce micro, mais à mon âge on commence à rabâcher, oui. J'essaye de faire en sorte qu'en sortant d'une prédication, je me dise, bon, je vais essayer de retenir 2-3 choses, de manière à ce que si dimanche prochain on me dit c'était quoi au fait le message dimanche dernier, je suis au pas couvert de honte en disant oui c'était, alors c'était sur le sabbat dimanche dernier, et oui encore, vous voyez, alors bon, 3 points. Dieu a le pouvoir de guérir n'importe quelle maladie, mais bien plus encore, il a la volonté de pardonner ses péchés à celui qui se repent. Pour Dieu, il n'y a pas de pestiféré. Alors, Jésus n'a pas dit que cet homme n'était pas atteint de la lèpre, c'est pas ça. Je veux dire par là, il n'y a personne que Dieu tienne à l'écart. Personne qui ne soit pas fréquentable aux yeux de Dieu. Jésus s'est approché des lépreux jusqu'à les toucher. Alors ça ne va pas à l'encontre des recommandations d'hygiène et des précautions élémentaires face à la maladie. Je ne suis pas en train de vous dire que si vous croisez quelqu'un qui a le Covid, il faut aller l'embrasser, c'est pas grave. Il y a quand même un bon sens. Mais l'attitude de Jésus montre que ce qui, pour lui, fait la valeur de l'homme, ce n'est pas son état physique. Tout être humain a de la valeur aux yeux de Dieu. Peut-être étiez-vous là quand, lors de présidence, je vous avais raconté deux histoires de Punchinello. La moralité, c'était « tu as du prix à mes yeux, que tu sois fait dans un bois noble ou de moins bonne qualité ». Tu es important à mes yeux et je sais ce que je fais. Et puis, Dieu a de la compassion pour ceux qui souffrent. Il ne renvoyait pas les malades qu'on lui présentait. Matthieu 7, 7. Demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Le lépreux s'est approché de Jésus avec foi, avec humilité, et Jésus l'a délivré de sa lèpre. Mais il ne s'agit pas de s'approcher de Jésus n'importe comment. Il nous est dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Vous vous souvenez, ce lépreux, il a dit, « Si tu veux, tu peux me rendre pur. » Sachons prendre exemple sur la foi et l'humilité de ce lépreux. Et pour terminer par une petite remarque, Jésus a dit au lépreux de dire à personne ce qu'il avait fait pour lui, mais je crois qu'on n'est plus dans ce temps-là. On peut témoigner aujourd'hui de ce que Dieu a fait pour nous. On n'est pas là pour taire et pour garder pour nous les bienfaits qu'il nous accorde. N'hésitons pas à faire connaître nos exaucements au sein de l'Église. On est toujours encouragé d'entendre un frère ou une sœur dire qu'il a été exaucé dans sa prière. Et puis, on est invité à le faire dans un vocabulaire que les gens non-croyants puissent comprendre aussi. Parce que je ne sais pas, bon, on emploie quelquefois l'expression de patois de Canaan. Il y a des choses, quand on veut partager ça avec d'autres, c'est incompréhensible pour des gens qui ne sont pas de nos milieux. Eh bien, que nous sachions témoigner avec sagesse et avec simplicité de ce que Dieu a fait pour nous. Amen.
Je vous propose qu'on chante un dernier chant, le 519.